cul dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte, dans ton cul, dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Possible dans ta chatte, travailler plus dans ton cul pour gagner plus dans ta chatte. Il y a des libertés dans ton cul qui peuvent être facilement abandonnées dans ta chatte. J'ai menti dans ton cul, mais c'était de bonne foi. Ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. Vivre 100 ans dans ton cul, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans dans ta chatte. Si on arrive à vivre 100 ans dans ton cul, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ton cul, dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors on avait consacré deux émissions déjà au livre « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff. Nous allons aborder un troisième volet sur ce livre qui est une source intarissable d'informations, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur la psychiatrie et la critique de la psychiatrie. Ce que on aime bien chez cet auteur, qui a écrit ce livre dans les années 70, dans la première moitié des années 70, eh bien, c'est que c'est un psychiatre qui a cessé d'être psychiatre, comme l'indique le titre de son livre. Eh bien, que dire de plus sur ce livre ? C'est comme un reportage. L'auteur, qui est psychiatre dans l'institution psychiatrique, mais se fait aussi journaliste, en l'occurrence, à l'instar de Nelly Bly ou Albert Londres, dans des temps plus reculés. Alors, donc nous avons des descriptions très précises de ce qui se passait au Vinatier, près de Lyon, à cette époque. Alors, la tentative de Gérard Roff en entrant comme psychiatre au Vinatier à Lyon était de faire de la, en quelque sorte, de la psychiatrie sociale. En fait, ça s'est avéré impossible. Alors, il a tout d'abord été externe. Et d'ailleurs, je vais commencer à vous lire un extrait. Alors, jusqu'à maintenant, il avait travaillé avec Jacques Hockmann. Et maintenant, ça va être avec le patron d'Hockmann, Guyotat. Alors, Guyotat, le patron d'Hockmann, avait organisé des séminaires de formation spécialement destinés aux externes de son service, ainsi que différentes autres activités hebdomadaires s'inspirant des techniques de dynamique de groupe. Lors du premier séminaire destiné aux externes, où je me suis rendu, il y avait le patron, Marguerite, vieille psychologue en bottes de cuir, et l'interne, chargé de nous exposer à un cas, dossier en main. Il y était question d'une malade qui délirait. Délire, ce mot revenait à intervalles réguliers. Je ressentis subitement une impression bizarre à voir tous ces gens employer le terme de délire à propos d'un absent. Je demandai à quoi on reconnaît un délire. Il y eut un silence, puis l'interne me répondit, péremptoire, « Ça se voit !» Je n'y suis plus allé. Guyotat avait aussi fait imprimer un dossier d'accueil standard à l'intention des externes dont la fonction serait, comme dans tous les hôpitaux dignes de ce nom, de recueillir les premières informations, nom, prénom, lieu et date de naissance, emploi, sécurité sociale, antécédents héréditaires et familiaux, début de la maladie, etc. Il y en avait au moins 10 pages. J'ai poussé l'honnêteté jusqu'à utiliser cette espèce de questionnaire IBM des années 30 en accueillant un trimard échoué, échoué dans le service que je connaissais pour l'avoir vu à la fac de lettres en mai 68 et que j'avais rencontré souvent depuis. Ce dossier était strictement impraticable. J'ai fait sortir l'intéressé pendant les week-ends. On me fit obligatoirement savoir que Guyotat ne voyait pas d'un œil favorable des relations trop étroites entre le personnel et les hospitalisés. Je me fis le plus possible oublier par Guyotat pour me faire avoir par Hockmann. Il était jeune, il ne cessait pas de râler contre l'hôpital, ce monstre, contre la méchanceté et la bêtise nosographique. Il ressemblait à un renard, c'était mon père psychiatrique. Nous nous sommes vaguement liés d'amitié. J'ai suivi un séminaire restreint qu'il assurait à 8h du matin à quelques initiés. J'étais dans le secret des dieux. Je trouvais bientôt une sorte de spécialité qui me mit définitivement à l'abri de la fonction prolétarienne d'étiqueter le matériel humain à son arrivée. Hockmann se montra très intéressé par les histoires du théâtre de la rue et, de fil en aiguille, je me mis à faire de l'expression corporelle avec les malades. Voilà, donc de l'expression corporelle, c'est-à-dire à partir d'une expérience de théâtre, nous avions lu ce passage où donc l'auteur faisait du organisait des séances de théâtre et appartenait à un groupe de théâtre de Living Théâtre à la française. Une anecdote à propos d'un certain Jean-Louis. On commença par me confier un schizophrène de 15 ans très déficitaire que je pris en séance individuelle d'une heure, deux fois par semaine. Il était incapable d'effectuer les gestes les plus simples que je lui demandais de faire. Il me vint à l'idée de lui dire « Tu es devant une glace et je suis ton image » ou alors « Je suis devant une glace et tu es mon image ». Puis je me mis à faire un geste simple avec le bras qu'il exécuta en même temps que moi. Il était joufflu, obèse. C'était le fifis à son papa, à sa maman et à sa grand-mère aveugle. Aux questions qu'on lui posait, il répondait oui, non, de façon mécanique. Il allait tous les jours faire les mêmes gestes, du genre assembler des pinces à linge dans un prétendu centre de réadaptation, centre Denis Cordonnier, entre parenthèses, pour infirmes moteurs cérébraux. Parfois, il ne voulait pas y aller et exerçait sa tyrannie sur sa suite. Il commençait par caresser les cheveux de sa mère et de sa grand-mère, d'abord affectueusement, pour finir par vouloir, avec rage, pénétrer dans leur crâne avec ses doigts. Il était fasciné par la magie de l'électricité. Il faisait des caprices fracassants pour que ses parents se procurent le dernier appareil électroménager dont il avait pris connaissance. Il était allé jusqu'à démolir le poêle à mazout pour qu'il soit remplacé par un chauffage électrique. Il guettait les grèves d'électricité annoncées dans le journal. Il était impossible de l'envoyer travailler au centre ce jour-là. Il branchait tous les appareils et attendait la grève. Avec tous, ses parents compris, il pratiquait une résistance passive inébranlable. « Tu seras sage, Jean-Louis, » disait sa maman. « Oui, maman, » disait-il inexpressif et n'en pensait pas moins. Le cas était désespéré, pas d'autre alternative que l'hyper-exploitation du centre ou l'œuf familial. C'était bien à contre-cœur que sa maman l'y envoyait, mais Jean-Louis pratiquait une tyrannie maligne qui les épouvantait littéralement. J'imaginais l'enfer familial. Tu n'as pas honte de faire de la peine à ta maman ? Et Jean-Louis de venir s'asseoir gentiment sur les genoux de sa maman et de lui caresser gentiment les cheveux. Le plus singulier, c'est qu'après ces séances, par « empathie », entre guillemets, en quelque sorte, je crois que c'est cela, comme cela qu'on dit, c'était moi qui me sentais mal à l'aise dans mon propre corps, ce dont je me suis confié à Hockmann. Il fallait bien que je parle. C'était donc que je souffrais dans mon schéma corporel. « Tu devrais te documenter sur le schéma corporel ?» Je me suis mis à lire et à devenir spécialiste du schéma corporel. Tout cela pour me protéger de Jean-Louis. C'est ainsi que j'en suis arrivé à la notion de latéralisation, de l'intérêt de la latéralisation, de sa forme progressive, etc. Je n'étais plus tellement angoissé à la fin des séances. Droite, gauche, droite, gauche. Maintenant, nous pouvions, Jean-Louis et moi, projeter une intention très vite sur le côté. En haut, en bas, à droite et à gauche. Jean-Louis aurait besoin d'une bonne latéralisation. Je vais essayer de le latéraliser en douceur sans qu'il développe de résistance. Par ailleurs, Jean-Louis a besoin de gestes qui poussent à l'extériorisation, ne serait-ce que pour parvenir à s'exprimer ailleurs que dans sa famille. Tel était le genre de note que je serrais dans un dossier personnel chez moi et pas dans le service. C'est comme un feu d'artifice. me dit Jean-Louis enthousiaste. La communication directe était établie. Jean-Louis venait de me faire un grand plaisir. Je me suis assis pour souffler. Au détour de mes lectures, j'avais compris l'identification massive que j'avais faite sur lui, en même temps que je diagnostiquais rétrospectivement ce trouble indicible que j'avais vécu pendant mon enfance. Débilité motrice. Un jésuite m'avait fait passer des tests psychotechniques. On me félicitait des progrès de sociabilité de Jean-Louis. Puis j'en pris un autre, puis un autre, puis un groupe. Puis j'ai suivi Hochmann visiter les malades à domicile. Quant à Jean-Louis, qui allait réellement mieux, sa mère me téléphona un jour. « Allô, monsieur Hoff, Jean-Louis trouve que c'est trop fatigant de venir vous voir deux fois par semaine. Allez, Jean-Louis, dis à monsieur Hoff que c'est trop fatigant de venir le voir deux fois par semaine. » La mère était inquiète de perdre son objet. Pour le groupe d'expression corporelle, en dépit de ma réticence, Hochmann tenait beaucoup à ce que cela se passe dans le service, en bas, dans une salle commune, c'est-à-dire dans une salle lugubre, donnant sur la salle à manger par une ouverture, avec des murs gris, la lumière qui traverse à peine, et où tout autour il y a une rangée de fauteuils dans lesquels sont assis, immobiles, des malades, toute la journée, en silence. C'est là que nous avons commencé des exercices type Living Théâtre, où il était question de crier. C'est là que nous faisions des improvisations, où il était question d'une jeune fille et d'un jeune homme séparés par des barreaux dans un jardin, avec la fontaine sainte Allopéridole, jouée par un malade. Au milieu, où chaque personne était tenue de venir boire dans la journée. Je venais pour cela l'après-midi. Le personnel médical était absent. Il ne restait que la réalité. L'après-midi était deux fois plus sinistre que le matin. Pendant que nous jouions, des malades venaient pour voir dans l'embrasure de la porte. Certains, parfois, entraient dans le jeu. Un infirmier, les infirmiers virent toujours d'un sale œil cette activité, un infirmier m'apprit que, après mon départ, les malades étaient tellement excités qu'il fallait leur faire des piqûres de neuroleptiques. Alors, il y a aussi l'épisode Jean. Alors, demandait Hochmann, alléché par les incidents institutionnels le lendemain matin, l'expression corporelle s'est bien passée hier soir? Le deuxième que j'ai pris en individuel s'appelait Jean. Jean avait 20 ans, il était pied noir, obèse et myope. Il vous parlait dans la figure avec averse de potillon d'un débit précipité avec les mots qui s'entrechoquaient et se bousculaient à la sortie en roulant de gros yeux myopes déformés par des verres grossissants. Il était insupportable et incompréhensible. Jean passait littéralement son temps à chercher du travail, mais il « présentait » entre guillemets si mal que tous les employeurs devaient poliment le reconduire en lui promettant de lui écrire. C'était là son drame. Si l'Algérie avait toujours été française, il ne serait pas dans ce cas-là. Ce que Jean essayait d'expliquer à ses employeurs, allant jusqu'à leur démontrer qu'ils ne détenaient leur rôle supérieur que parce que l'Algérie n'était plus française. Je ne pense pas qu'aucun employeur n'ait perçu la finesse de cette argumentation. Pour lui, il fut question de cours d'articulation. Pour le faire articuler, il fallut que je lui apprenne à respirer. Pour le faire respirer, il fallut que je lui fasse des séances de décontraction. Les malades ont un penchant pervers à vous faire tomber dans leur piège. Le piège de Jean, c'était l'entropie. Est-ce que vous croyez, monsieur Hoff, que je peux réussir le concours de receveur des postes? Est-ce que vous croyez? À la fin, je me fâchais tout rouge dès qu'il s'agissait de me détourner des exercices pour bavarder. Alors, il s'arrêtait, me regardait d'un air visiblement satisfait et reprenait les exercices avec application. Puis, j'ai continué à me fâcher tout rouge dès que nous n'arrivions pas à avoir une conversation suivie. Je me suis mis à réaliser que Jean se remettait à bafouiller dès que la conversation prenait une tournure affective, dès que la conversation était trop chargée d'affect. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à ce que Jean articule, crayon entre les dents, très fort comme à la Comédie française, des délires personnels sur la guerre d'Algérie, délires à mon point de vue, tant ce qu'il disait me faisait mal aux oreilles. Hochmann n'en revint pas quand il prit un travail et il y resta plus d'un mois. Voilà. Les malades que j'ai suivis en expression corporelle sont venus me voir jusqu'à la fin. Ils n'étaient aucunement surpris par le fait que je ne voulais plus faire ce travail. Jean, notamment, ne m'avait jamais pris pour un psychiatre. Alors, on va finir avec... on va pas finir, mais on va... Comment dire... je vais vous lire encore un autre... un autre passage. Et puis on va faire une pause, on va passer une plage musicale. Schéma corporel, donc, telle était devenue ma spécialité. Ce n'est que longtemps après que j'ai lu Reich. Les noirs d'une dope ont une façon bien à eux de calmer une agitation. Ils se précipitent collectivement sur le déviant angoissé et agité pour le calmer, l'entourer, le choyer, le caresser. J'avais donc ma technique personnelle pour avoir des prétentions à modifier le milieu. Faire de l'expression corporelle, c'était s'inscrire contre la psychiatrie répressive, où la première chose que l'on trouve à opposer à une entrée agitée, c'est la contrainte musculaire en attendant la piqûre. À l'extrême, il s'agissait d'installer des relations où se manifeste le désir. Psychothérapie institutionnelle sans psychiatre, sans hiérarchie, psychothérapie impossible.
Il est minuit, ce soir les quartiers sont endormis, la rue, le trottoir sont calmes, et toi refrais aussi, tranquillement dans ta chambre, au télo avec une meuf, dans ta turvoir, au taf, ou dans une teuf. En zonzon, dans le métro, où que tu sois, t'entends, t'écoutes ce son sur le CD ou à la Jura. Sans doute tu ignores ce qui se passe en ce moment. À cet instant que je te parle, dis-toi qu'il y en a qui vivent mal, se sentent sales, se sentent seuls, affrontent le froid, grève la dalle. Je te parle des SDF clochards sur le trottoir sans plumard. Pour les plus chanceux sur un brancard, pendant que d'autres s'endorment, ne se réveilleront plus d'une triste mort glaciale. C'est ainsi que s'arrête leur vécu. En même temps dans des rues, des femmes font un pain, se vendent pour presque rien, histoire de se faire du bien. Quand je dis du bien, c'est ce que rapporte le client salaud. Fortune à gogo, nourrir ses gosses et dos de coco. Les toxicos arpentent les rues, se cassent le cul à barber un poste ou un sac qui serait la bienvenue. Dis-leur lui, sort de son taudis et lui dit:
je suis ton meilleur ami et jusqu'à la fin de ta vie.
Quelque part en France, dans un bar, dans un appart, le téléphone sonne, réveille en sursaut. C'est pire qu'un cauchemar, le cœur bat vite, le souffle s'accentue. La peur de décrocher signifie une mauvaise nouvelle à pleurer. Alors on décroche, y apprend. L'accident, le décès, le viol, où je ne sais encore mais ce que j'ai, c'est qu'il se passe un tas de choses à 7 heures, chaque instant, chaque minute, seconde, un putain de malheur. Faut que tu saches, ouais. Car le soir les anges sont endormis, surgit les démons qui sèment la poisse en répit. Ouais, ce que je te dis, ça se passe en direct de la nuit.
Prête attention, écoute bien, j'ai pas fini.
Accompagné de 2-3 bonnes petites go, veulent aller s'amuser, aller faire un peu la fête. Oublie le stress, les soucis, tout ça en discothèque. Mes arrivées devant l'entrée, pas le temps de parler, se font recaler, soi-disant pas habitués, enfoirés. Alors les robes se rabattent en soirée pop, mais moi-même je sais comment finissent les soirées pop. Français ici à Paris, c'est maudit, c'est pourri. On paye et son tasse tous dans une salle pour feuilleter. Les regards se croisent, la tension monte, la moindre bousculade, bim bam, ça se transforme en une vraie bastonnade. Faut fuir, les keufs cherchent, sans savoir qui a fait quoi, qui est quoi, comment et pourquoi. Pourtant le soir, éclate un tas de fausses bagarres dans des bars de soulard et viennent toujours en retard. Au loin des jeunes, bouffent des cachettes merde dans une boîte de merde. prétexte qu'il mène une vie de merde. Mon cul, c'est plutôt une influence à la con. Jouer au rang, se rendre intéressant, espèce de bouffon. Sur le trottoir, des mecs disent ensuite pleurent leur mère. Vomissent, regrettent, se roulent dans leur merde par terre. Tu vois, cousin, ce que je te dis, ça se passe en règle, dis.
Écoute-moi bien attentivement, j'ai presque fini.
Pendant que certains veulent s'amuser, d'autres dans un quartier vont braquer, brasser la pompe ou l'épicier d'à côté. Armé de flingues, de cagoules, s'emparent des billets, tout se passe bien. Mais la police arrive alerte et c'est la panique. Perd leur sang-froid, tire dans le tas. Les keufs riposent de suite et ça flingue à tout va. On touche un dans le dos, ils arrivent à s'échapper. Se fait traîner, porté par ses potes jusqu'au quartier. C'est tellement long qu'il mourra un quart d'heure plus loin.
Les autres se feront serrer, sauter au petit matin.
Leur passe. C'est la sortie des boîtes espoirées. Des chiffres défoncent, des sont pressés. Veulent épater de fausses meufs. À l'arrière, à leur accélère. Sur périph, comme si la route était à leur mère. Double voiture, puis Dieu ensuite perd le contrôle. Des rabats suivis d'une collision avec d'autres bagnoles. Putain, carambola sans rescapé. Et ça fera 20 morts de plus pour la soirée. Des sirènes gueulent, retentissent toute la nuit. SAMU, pompiers, ambulance, non pas fini. C'est non-stop dans les urgences à cause d'incendie. Crise cardiaque, agression, tentative de suicide. Tout ça se passe en direct de la nuit. Nuit de poisse, nuit de merde, nuit de folie.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient d'entendre tout squat, ou deux squats, en direct de la nuit. Et je poursuis avec la lecture de passage de « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff aux éditions Météor, donc une réédition actuelle. Et si l'on veut d'ailleurs, on peut trouver ce livre à Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Alors, au début du chapitre 2, il y a une espèce de... Voilà, Gérard Hoff suivi le cursus qu'il fallait pour devenir psychiatre et en même temps, lorsqu'il arrive en tant que... d'abord externe, ensuite interne, eh bien, chaque jour est un... une occasion d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Voilà. Et en l'occurrence, on pouvait découvrir aussi on peut découvrir dans ce livre à plusieurs moments quelle imposture parfois la discipline pouvait être. Alors, début du chapitre 2, par exemple, concernant le prolétariat. Partant du postulat malade égale prolétariat égale victime de l'exploitation de l'homme par l'homme, il s'agissait de vérifier la théorie. Partant, il fallait déterminer quand, par quelle médiation, la répression sociale était intervenue. Il y avait bien sûr la répression standard, celle applicable à tous de façon indifférenciée, tellement indifférenciée que la répétition même vidait le concept de son contenu. Exemple, le fourre-tout de la répression sexuelle passant par le canal héréditaire familial, etc., invoqué à tout bout de champ, alors qu'une fausse pudeur significative de cette même répression, généralement partagée par les deux parties, empêchait son exploration de façon précise et personnalisée. D'ailleurs, Ovin Attier, spécialisé dans l'incarcération des malades mentaux, strictement originaires du prolétariat et du sous-prolétariat, les pathogénies classiques freudiennes et métafreudiennes perdaient la vedette derrière la masse des malades désespérément pauvres, avares en symptomatologie spectaculaire, qui se bornaient à ne plus vouloir remplir le contrat social qui leur garantissait la position éternelle de l'usurpé. C'était par exemple le cas des syndromes subjectifs que je connaissais bien pour l'avoir assuré à l'époque où j'étais externe chez M. Lecuir, les consultations en neurochirurgie. Chaque semaine, c'était une longue queue interminable de Nord-Africains qui venaient envahir la salle d'attente. L'histoire était toujours la même. Victimes d'un accident du travail avec traumatisme crânien, ils étaient porteurs de séquelles interminables, nausées, vertiges et maux de tête. Syndrome subjectif, car aucun examen, fond d'œil, électroencéphalogramme, etc., n'en donnait de signe objectif. Ces signes étaient trop couramment répandus, après tout trauma crânien d'importance, pour que l'on n'en reconnaisse pas l'existence effective. Leur disparition, plus ou moins rapide, était réputée, elle aussi, dépendre de facteurs éminemment subjectifs, tels que volonté, désir de guérir et de se remettre au travail, textuel. Moi aussi, disait un de mes collègues externes de son état très imbu de sa personne, dont on voyait déjà la brillante carrière de chirurgien se dessiner devant lui. J'ai eu un syndrome subjectif après un accident de montagne, car je fais de l'alpinisme. Grâce à ma volonté, c'est passé, parce que j'ai eu envie de guérir. Sur chacun, on faisait un électroencéphalogramme, sachant très bien qu'il reviendrait négatif. 100 francs remboursés par la sécurité sociale. C'était toujours la même histoire, ils finissaient par subir une expertise de la sécurité sociale, leur retirant très subjectivement leurs droits. L'électroencéphalogramme était invoqué en dernière extrémité comme argument irréfutable, et ils étaient définitivement foutus, se cantonnant dans un rôle revendicateur éternel et venant régulièrement envahir la consultation. Je m'étais fait vertement tenser par l'interne, après avoir scandalisé et peu expert encore à la matière de médecine légale, en dépit de l'expertise annonçant la fin de l'accident de travail, prolonger le congé d'un Nord-Africain arrivé à la consultation après une ouverture de l'arcade sourcilière qu'il s'était faite en venant, sur le bord de trottoir, pris de vertige. Le patron nous commenta un jour l'attitude d'un Nord-Africain se déshabillant dans un coin. « Voyez ce malade avec ses gestes gauches et son air de douleur indescriptible sur le visage qui se déshabille comme à contre-cœur pour subir l'examen. Il souffre d'une symptomatologie pratiquement exclusivement nord-africaine de sinistrose qui arrive toujours après un accident du travail. Il est pratiquement irrécupérable et ne travaillera jamais plus. » Le nord-africain était en slip penché sur le côté, s'appuyant d'une main contre le mur, l'autre main cachant son visage, sachant qu'il n'avait rien à attendre de cet examen qu'une humiliation supplémentaire. À la fin de la matinée, l'externe, dont je parlais tout à l'heure, qui assurait à lui seul, quand il était là, la fonction de patron que je lui laissais généreusement, était exaspéré de tant et tant de résistance obtuse à son héroïque volonté thérapeutique. Entra un Algérien au physique massif de celui qui a toujours été un travailleur de force. « Alors, qu'est-ce que tu as? Mal à la tête? Vertige ?» lui lança agressivement l'externe, assis derrière son bureau. L'Algérien ne dit pas un mot, s'assit à la place du consultant et sortit un morceau de journal de sa poche qu'il nous tendit. Il y avait une photo d'une grue tombée de tout son long à travers un chantier. « Eh bien,
j'étais là. » dit le Nord-Africain en montrant la cabine.
Silence gêné. L'externe se ravisa progressivement. L'arabe, en toute simplicité, ne semblait pas conscient de l'avoir désarçonné.
« Et comment ça va ?»
hasarda-t-il doucement et vraiment très poliment.
« Moi, ça va bien, mais mon patron voulait que je vienne te voir. »
Ces malades nord-africains, objets d'un double racisme, étaient les plus déshérités. Aucun soignant ne trouvait de bénéfice à s'intéresser à leur cas peu reluisant.
peu engageants au niveau de leur aspect physique vestimentaire, ne connaissant rien des règles de communication et des codes, ils essayaient vainement, agressivement ou de façon obséquieuse d'attirer l'attention des docteurs blasés sur leurs pauvres symptômes. Les docteurs ne pouvaient apprécier ces témoins les plus dépouillés de leur incapacité thérapeutique. Leur pathologie ne pouvait s'appréhender qu'en termes de catégorie marxiste. Ils étaient l'expression la plus implacable, la plus mathématique du schéma marxiste le plus élémentaire. Ils ne représentaient qu'une force musculaire de travail sans spécialité, surabondante sur le marché, qu'ils étaient obligés de vendre. Le système, en vertu des lois de l'offre et de la demande, ne donnait effectivement, en échange, que le strict minimum nécessaire à la reproduction de cette force de travail. Voilà, c'était encore un passage de « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff. Et nous allons donc raconter maintenant, enfin c'est Gérard Hoff qui raconte d'ailleurs, un remaniement au Vinatier. Et au moment où donc il s'est retrouvé interne en psychiatrie. Voilà ce qu'il écrit. Je me suis donc retrouvé interne en psychiatrie, responsable des pavillons 15e homme et Regain chez le docteur Grandbert. J'arrivais à une époque de remaniement. Depuis la sectorisation, la différence pavillon ouvert et fermé était dissoute, chaque pavillon correspondant légalement à un quartier de Lyon ou sa banlieue. La libéralisation supposée homogène de tous les pavillons posait un problème grave aux médecins-chefs qui ne savaient comment se mettre à l'abri des dangers que leur responsabilité légale leur faisait encourir. Autrefois, un placement d'office étiqueté dangereux pour lui-même et pour les autres par les autorités préfectorales était d'autorité ventilé dans un pavillon fermé, effectivement fermé à clé, et qui ne se distinguait guère d'une prison. Il s'en était tiré en déplaçant le concept de pavillon ouvert et fermé en pavillon d'entrée et en pavillon de chronique. Les pavillons d'entrée se libéralisaient, on y pratiquait l'attitude ferme et compréhensive et l'intériorisation de l'interdit. La porte du service restait ouverte, il restait toujours la possibilité d'adresser les placements d'office aux pavillons chroniques avec les grabataires et les réputés irrécupérables où la détention forcée, les coups et la camisole de force restaient en monnaie courante. Curieuse évolution, libéralisation apparente d'un côté, susceptible d'être montrée aux visiteurs, et son corollaire mathématique et officieux, durcissement du régime pénitentiaire, dans les ex-pavillons fermés, avec remaniement du personnel en conséquence. Malades et infirmiers conciliant dans les pavillons ouverts, malades et infirmiers débiles, résistants, irrécupérables en pavillon chronique. Pour ma part, j'héritais de deux pavillons en plein remaniement, la 15e homme qui avait déjà entamé sa vocation de pavillon d'entrée, grand pavillon d'homme qui avait encore 3 ou 4 grabataires que l'on avait pu transférer à son équivalent chronique, Colline et Regain, pavillon surchargé de vieilles débiles qui n'en étaient pas moins destinés à devenir un pavillon d'entrée et dont le correspondant chronique serait Roseraie Sud. Pour la première fois, j'endossais une responsabilité effective au Vinatier. J'avais beau dire et redire que mon seul intérêt était l'expression corporelle, il me fallait bien recevoir les entrées, accorder des consultations aux pensionnaires qui en manifestaient le désir, donner des traitements calmants aux malades qui inquiétaient les infirmiers, et faire bien d'autres choses encore au cours de mon apprentissage. Apprendre en particulier au fil des jours qu'un nouveau venu ici, qu'il soit interne ou malade, devait avant tout s'écraser et subir différentes démarches initiatiques, toutes présentées comme secrètes et officieuses, agrémentées de différents pseudo-confidences, qui chacune devenaient autant de secrets à ne pas trahir, qui rendaient irrémédiablement complices. Parmi celles-ci, les confidences de certaines infirmières musclées vous ayant à la bonne, vous informant qu'en cas de malaise, l'après-midi, en l'absence des médecins, personne ne voyait d'inconvénient à ce que la dose neuroleptique intramusculaire soit doublée. Quoi d'étonnant à cela quand on pense que des mères de famille harassées par les cris de leurs nourrissons en arrivent à les calmer à grands coups de théralène. La masse des infirmiers, beaucoup plus préoccupée par sa sécurité personnelle que par la prétendue thérapie, laissait causer le personnel médical et se foutait pas mal de la psychothérapie institutionnelle ou pas. Elle ne voyait dans la libéralisation du régime qu'un danger physique supplémentaire, ce qui la rendait apparemment plus réactionnaire que ses médecins-chefs. Alors là encore, on va voir que Gérard Hoff va travailler à contre-courant des habitudes infirmières. Ainsi, l'interne était-il harcelé par les infirmiers pour augmenter la dose d'un tel ou d'un tel ? À Regain, pavillon sur lequel je me suis replié par la suite, trois fois par jour, une infirmière entrait dans mon bureau. « Monsieur, il faudrait que vous voyiez mademoiselle une telle qui vient d'entrer. »« Mais je l'ai vue. » Mimique interloquée de l'infirmière. « Mais il n'y a pas de médicaments sur le cahier de prescription. »« Vous pensez que mademoiselle une telle a besoin de médicaments ?» L'infirmière semblait de plus en plus perdue. « Mais, bredouillait-elle, c'est une malade. Elle a besoin de traitement. » Après avoir bataillé trois mois, j'obtins que lorsque je marquais en toutes lettres sur le cahier de prescription « Madame une telle sans traitement », on ne donne aucun comprimé à l'intéressé. Alors, voilà, on va faire une petite pause encore.
Et oh négro, molo molo, vois-tu ce flow, le fiasco. Des fachos, machos, mégalos de politico, qui ne donnent pas cher de notre peau, nous prennent pour des idiots. Ce n'est pas parce que le Congo Kinshasa a changé d'appellation qu'elle sera une nation pleine de libération, des libertés d'expression, de circulation. Non, pas d'illusion, démocratie, autocratie, kleptocratie. Dans toute l'Afrique, c'est le gouvernemental qui se régale, étale des lois infernales, anormales. Mandat présidentiel illimité, débilité, ivoirité, duplicité pour écarter les opposants du système corrompu, parti ça pue. Ces dirigeants sortis des sentiers battus du néocolonialisme, de l'impérialisme, ces accablés d'insuffisance mentale qui pensent que tout ce qui est gouvernemental est désormais leur héritage, sème la graine de la haine tribale, de la haine raciale. Fabara, 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 Jamana, Leni, Fabara, Domani, Fabara, 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 Jamana, Leni, Fabara, Domani, Fabara, 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 Jamana, Leni, Fabara, Domani.
Santé finable, Zangoka Waro. Mwate duna furu la blaze angu kambure nyekile soro Klebe fariala, banajugu bedo farala Kumwa bedo farala, minro bedo farala Bebe kulela, jiginya ukungula Tuguda ukungula, makoro be tuguda fe ulube kongola Jamana dumbe be bulila, kata jonya bareke jamana werela Nani beko, badinya bine fabara Sinjia bine fabara, oronya bine fabara Nanga dominike bine fabara, imaiwa Sabaka kor sabaye sababe se sabala sababe se sabanye blakor be se basa la basa be se jide na jide be se blakor na fabela ne mo definye ne ngo klorinye la drone be se fembela jamana inkono ya
fabara
Ce n'est ni par utopie ni par philanthropie que l'Europe et l'Amérique s'intéressent à l'Afrique. Pour l'or et le diamant, le FMI et la Banque mondiale sont prêts à livrer des armements aux partisans de la soumission pour déclencher des guerres génocidaires afin de s'emparer des zones minières. Je vous le dis, il n'y a pas de guerre tribale, il n'y a pas de guerre raciale. C'est la myopie politique des régimes despotiques, régimes semi-civils, semi-militaires, militaires affairistes, comme des marionnettes, baïonnettes à la main, utilisées pour immoler, pour dépecer, pour le mettre à penser. Je vous le dis, il n'y a pas de guerre tribale, il n'y a pas de guerre raciale. C'est la myopie politique des régimes semi-militaires qui fait du continent le cancer de la terre. Des légions étrangères qui viennent sur le continent rien que pour s'emparer du transport de l'or et du diamant.
Fabara, hey, Fabara, Fabara, Jamana, Leni, Fabara, Domani,
Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir toujours, émission critique de la psychiatrie, avec la lecture de morceaux de « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff. Peut-être un petit rappel, donc « Je ne serai plus psychiatre » paru en 76, est un témoignage emblématique de cette période agitée qu'on a connue en France et en Belgique, c'est-à-dire une séquence de lutte révolutionnaire contre l'ordre en général et l'ordre en psychiatrique en particulier. Gérard Hoff fut une comète radicale de cette décennie avant de connaître un destin tragique. D'abord interne en psychiatrie à l'hôpital du Vinatier à Lyon, il en sera radié à la suite de sa participation aux troubles insurrectionnels qui agitèrent l'institution et dont il était partie prenante, ajoutons-le. Il cofondera le groupe Information Asile tout en fréquentant le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Son action s'entremêle à celle de Françoise Daubonne, avec qui il entretiendra une relation intense. Voilà, donc Gérard Hoff nous livre dans son récit acerbe et enragé sa trajectoire de radicalisation contre l'institution psychiatrique jusqu'à sa désertion. C'est donc là des extraits de la quatrième de couverture que je viens de vous lire. Et maintenant, eh bien, on peut parler par exemple du sadisme infirmier. Avec deux exemples. Un exemple où l'on parle de la routine. La routine vous englue dans son tissu visqueux plus sûrement que la blouse blanche qu'aucun infirmier n'a réussi à vous faire porter. Averti de mes intentions de faire de l'expression corporelle dans le service, le chef me proposa de débuter par une réunion hebdomadaire d'une heure avec le personnel pour en arriver à un projet réfléchi. Au bout de quelques semaines, à l'inertie et à l'absentéisme des participants, je compris que ces réunions avaient pour but effectif de me décourager. Seul un infirmier était partie prenante. Il proposait que nous improvisions le bureau d'embauche, espérant ainsi porter remède à la maladresse des malades quand il s'agissait de trouver du travail. Cette équipe se sentait, alors c'est une note de Gérard Hoff, cette équipe se sentait très ailée quand il s'agissait de remettre quelqu'un au travail. Chacun savait que par définition, nos malades étaient paresseux. Elle manifestait, cette équipe, à l'égard du malade, le même racisme que celui couramment répandu à l'extérieur à l'égard du Nord-Africain. On peut dire qu'un moralisme de bon aloi sur la nécessité de travailler était pratiquement sa seule façon de s'adresser au malade. Travail, travail, telle était l'obsession de toute l'équipe. Pour les autres, bien entendu, le chômage était à juste titre reconnu comme le principal obstacle à la guérison. Brun, sec et nerveux, cet infirmier, c'était le plus sadique de l'équipe. Débordant d'activité, il se distinguait des autres, qui préféraient s'enfermer dans la cuisine toute la journée à boire des coups, n'en sortant que pour faire acte de présence en cas de nécessité le matin et pour distribuer le repas et les médicaments. Il était le seul à être convaincu de la fonction thérapeutique de l'hôpital. Il fit tout un scandale le jour où il surprit un malade jetant ses comprimés dans les chiottes. Se postant en sentinelle, il en surprit plusieurs autres. Il en parla aux réunions de pavillon avec le patron, en dépit de la réticence de ses collègues. Il proposait que l'on fît mettre les malades en file indienne devant la pharmacie du service et qu'on les oblige à avaler deux comprimés sous les yeux de l'infirmier. Il s'était fait une spécialité des cures de dégoût. Les cures de dégoût, répugnantes pratiques, étaient la seule manière de traiter les alcooliques dont l'hôpital était capable. La plus économique, au point de vue prise en charge, à courte vue. Le malade prenait quotidiennement un certain nombre de comprimés d'antabus pendant 3 semaines. Puis venait l'épreuve finale, on lui administrait un demi-litre de vin qui le rendait malade comme un chien.
Le malade sortait le lendemain avec une ordonnance d'antabus. Inutile de dire que la plupart revenaient peu de temps après. Il fallait voir l'infirmier en question, roulant fébrilement ses yeux derrière ses lunettes, venir m'expliquer avec force détail les convulsions et les dégueulis de tel malade qu'il venait de traiter, ou me dire déçu « Un tel est devenu tout bleu, il a eu une bonne nausée, mais rien n'est venu. Pensez-vous qu'il faille recommencer demain avec plus de vin ? Sa tension le permettrait. » Alors, j'acceptais sa proposition d'improvisation, bien que mes objectifs aient été différents. Mais le restant de l'équipe opposa une telle force d'inertie que cela n'alla pas plus loin. Voilà, alors, on a aussi donc... je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà. Et un autre exemple donc du sadisme infirmier avec Jean Sénétas. Un bon matin, quand j'arrivais dans le service, Jean Sénétas m'attendait dans le hall. « Je suis venu vous parler d'un tel », me dit-il à brûle-pourpoint. Jean Sénétas était une brute carrée, dirigeant l'atelier menuiserie, et grand-père avait trouvé bon de lui adresser un trimard aux longs cheveux blonds qui voulait bien faire de la menuiserie et auquel grand-père voulait redonner des habitudes saines de rythme de vie. Mes gars n'ont pas pu le supporter avec son genre blouson noir, vous comprenez, et ils lui ont cassé la gueule. J'imaginais fort bien et je sentais la rage monter. Je restais silencieux. « D'ailleurs, vous savez, » poursuivit Jean Sénétas, « il est drogué. Je l'ai très souvent vu fumer du haschich. » Jean Sénétas ne m'épargnait rien des clichés de François. Je pris mon air le plus technocratique. « Très bien, dis-je. Nous tenons beaucoup à ce que ce malade reprenne un rythme de travail normal. C'est pourquoi je pense qu'il doit continuer à aller régulièrement chez vous, de 8h à midi et de 2h à 6h. Je lui dirai de fumer son haschich le soir dans le service. » Jean Sénétas disparut sur le champ avec l'air égaré de celui qui vient de voir le diable. Alors évidemment, ces décisions comme ça, contre-courant, ça provoque des réactions du personnel soignant et notamment de la hiérarchie. Suite donc du passage... Le lendemain, coup de fil de grand-père. Je viens d'avoir un entretien téléphonique avec le directeur. On lui a dit que vous donniez du haschich à vos malades. Bien entendu, je vous ai couvert. Êtes-vous au courant de cette histoire ? Là, il se passe quelque chose aussi. Ça s'appelle Radio Vinatier. C'est un petit peu un système de surveillance délation qui existe au sein de l'hôpital. Êtes-vous au courant de cette histoire ? C'était la première fois que Radio Vinatier me prenait en charge. Radio Vinatier était une infrastructure d'information qui faisait que chacun était au courant des affaires de tous. J'aurai souvent l'occasion d'en reparler. Radio Vinatier était chargé de créer des abcès de fixation sur les malades les plus satyres, les médecins les plus débauchés. C'est ainsi que je pris l'habitude que me reviennent aux oreilles les bruits les plus fantaisistes sur mon compte. Naïvement crue par les plus simples, elle était habilement manipulée par d'autres. Au repas de fin de semestre que nous offrit le patron, je parlais ouvertement de cette histoire de haschich. Plusieurs externes s'en amusèrent et m'avouèrent qu'eux-mêmes croyaient sincèrement que je fumais avec mes malades, sans y voir d'inconvénient d'ailleurs. J'étais pour ainsi dire le représentant, au Vinatier, de la tendance lingue. Puisque nous n'avons pas de plage musicale calée prête. Eh bien, je vais pour finir, lire un passage sur les neuroleptiques. Voilà. Sur les neuroleptiques et notamment le moditaine. L'année avant mon arrivée au Vinatier, tous les internes furent subventionnés par les laboratoires Squibb pour expérimenter une drogue miracle de la famille des neuroleptiques, commercialisée depuis sous le nom de moditaine. Le moditaine devint, le temps d'une mode, la drogue antipsychiatrique par excellence, celle qui allait faire disparaître l'utilité des psychiatres tant ses indications étaient étendues. Les médecins-chefs, quant à eux, sont tous membres du comité de recherche des laboratoires Specia, section pharmaceutique Rhône-Poulenc. Specia les gratifie de subventions de recherche qui sont en principe destinées à l'amélioration des conditions de vie des malades. En fait, il n'en est jamais question et les médecins les empochent sans autre forme de procès. Bénéfices bruts exonérés d'impôts. Leur travail consiste à expérimenter sur les malades dans leur service des neuroleptiques intramusculaires retards stockés à la pharmacie avec un numéro de référence, 19 000 et quelque chose, dont les effets sont terrifiants. Passons sur la longue liste des effets secondaires gênants, loin d'être négligeables, bouche sèche, sueur froide, nécessité de prendre des anti-parkinsoniens de synthèse. Aussi vite que les médecins eux-mêmes, donc passons sur la longue liste des effets secondaires gênants, aussi vite que les médecins eux-mêmes, pour ne parler que des effets recherchés. Ces neuroleptiques sont officiellement antidélirants. Alors, note 10. Thémentyl, propriété médicament appartenant comme le Largactyl, le Phénergan ou le Nosinan à la série des amines dérivées de la phénothiazine. Indication, psychose, excitation psychomotrice, état dépressif, bouffée délirante, schizophrénie, délire chronique, troubles mentaux d'allure névrotique, extrait du Vidal. Le Thémentyl en comprimé est depuis longtemps commercialisé. Voilà, c'était une note. Donc, ces neuroleptiques sont officiellement antidélirants et pour cause, ils transforment tout simplement les hommes en robots. Ralentissement de l'idéation, anesthésie affective, indifférence, avec en particulier démission et obéissance passive aux ordres de l'entourage. Perte de l'appétit sexuel, impuissance physique chez l'homme, frigidité aménorrhée chez la femme, impuissance orgastique dans tous les cas. Obésité, regard de poisson mort. On voit ici l'intérêt de la forme intramusculaire retard sur la forme comprimée ou intramusculaire quotidienne. Certaines victimes ayant fait l'expérience physique angoissante de cette inhibition interne insupportable pouvaient se soustraire au traitement avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire dans les premiers jours. Grâce à la forme retard, une seule injection suffit pour réduire la personnalité pendant 15 jours. En s'y prenant suffisamment tôt, le malade n'aura pas la volonté de résister à la deuxième injection. Les spécialistes de la mort lente ne se contentent pas de l'arme psychiatrico-idéologique verbale. Grâce à leur complicité grassement payée, le système réalise à grande échelle une euthanasie perfide, différentielle, périmant la trivialité des camps de concentration. Il transforme chimiquement les hommes en apparence d'hommes, en enveloppe résignée, vidés de leur substance. Tout le monde sait que le traitement neuroleptique au long cours a toutes les chances de s'attaquer à l'axe diencéphalo-hypophysaire, c'est-à-dire au trait d'union entre le système nerveux et le système endocrinien, ce qui expliquerait bien cette obésité et cette baisse générale de l'activité. Mais on se garde bien de rechercher par des examens la toxicité du produit. On ne dose même pas les corticostéroïdes dans les urines. Examen simple à la recherche d'une baisse d'activité des glandes surrénales dépendantes de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ensuite, le produit est commercialisé avec une bonne clientèle assurée d'avance. Cette absence de sérieux est aggravée par un renouvellement constant des produits à expérimenter qui n'ont aucune spécificité les uns par rapport aux autres. L'un chasse l'autre. Nul ne saurait dire si le nouveau est différent du précédent. Alors, je fais un petit commentaire avant, pour terminer. Oui, on voit, il y a un moment où, un passage où il y est fait le parallèle avec les camps de concentration. Bon, alors évidemment, à cette époque, on était encore dans un peut-être une trace de l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et les esprits étaient marqués par ces camps de concentration. Et l'esprit critique à partir de mai 68, eh bien, avait tendance à utiliser un petit peu trop souvent ces comparaisons, plus que de raisons, justement. Voilà. Mais pour ce qui est des informations objectives que contiennent ce témoignage, elles sont absolument valables. Eh bien oui, ainsi donc se termine l'émission L'Entonnoir. Aujourd'hui, j'étais seul, mais j'espère que la prochaine fois que nous ferons une suite à ce commentaire sur Je ne serai plus psychiatre, nous aurons le retour de Sylvie. Et la semaine prochaine, c'est André Bitton qui viendra à L'Entonnoir pour un commentaire de l'actualité et pour l'actualité juridique autour de la psychiatrie. Donc nous vous disons au revoir et nous vous laissons en bonne compagnie avec Fabrice pour l'émission Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée sur les 89.4 de MHz, The Radio Libertaire, la voix sans maître ni Dieu, la radio de la Fédération anarchiste.
Soleil. Les hommes
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Voilà, ben en ce moment, la France subit des magouilles électorales non négligeables, avec un vrai risque de fascisme qui risque d'arriver le week-end prochain. Donc...